De suite, traversons l'Atlantique pour le journal d'Haïti et des Amériques, présenté par Adrien Delgrange. Bonjour Adrien.
Bonjour Benjamin Delillet, bonjour à tous. De Managua à Buenos Aires, de Jacmel à Cayenne, soyez les bienvenus dans votre journal des Amériques.
RFI.
21 juillet, le coronavirus à la une de cette édition, 7 mois après son apparition. L'Amérique latine est depuis maintenant plusieurs semaines l'épicentre de la pandémie. Nous irons dans ce journal au Venezuela, au Brésil et au Nicaragua. Le Nicaragua qui opte pour une stratégie complètement différente des pays voisins pour lutter contre le coronavirus. En Argentine, en dépit de la hausse du nombre de morts, victimes du Covid, les autorités lèvent certaines restrictions face à la fatigue de la population et à la nécessité de relancer l'économie déjà sévèrement touchée par 2 années de récession. Godson Pierre, le rédacteur en chef d'Alter Press, nous attend à Port-au-Prince. Nous évoquerons avec lui notamment les besoins médicaux en Haïti en dehors des patients atteints du coronavirus. Et puis, en fin de journal, le journal des Outre-mer nous emmènera aujourd'hui en Guyane et en Martinique.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Tous les pays du continent américain tentent de faire face au Covid-19 avec plus ou moins de succès selon les stratégies adoptées, tous sauf le Nicaragua, où les autorités ont tout simplement décidé d'ignorer le virus. Les écoles et les marchés n'ont jamais été fermés. Aucune mesure de confinement n'a été prise. Alors face à la fausse normalité imposée par le président Daniel Ortega et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, médecins et activistes tentent d'organiser une réponse au virus avec les moyens du bord. C'est un dossier signé Alix Hardy.
Entierro express, comme le disent.
Un enterrement en 5 minutes chrono en pleine nuit. C'est ainsi que Luis Alfaro a dû dire au revoir à son père, décédé du Covid-19 à Managua en mai dernier. Dans la vidéo qu'il a filmée, des hommes en blanc foncent au cimetière, y descendent précipitamment le cercueil et repartent aussi vite.
Despacio.
Les employés des pompes funèbres sont partis. Ils n'ont même pas dit au revoir. Ils ont mis le cercueil en terre comme si c'était un sac de patates.
C'est la dure réalité du Covid au Nicaragua, où le pouvoir sandiniste a décidé de nier en bloc la présence du virus. Début mars, il a obligé ses partisans à réaliser de grandes marches baptisées « Amour en temps de Covid ». Un observatoire citoyen tente de surveiller l'avancée de l'épidémie. Début juillet, il recensait 7500 cas suspects et 2000 morts de probable Covid. Une de ses membres a accepté de témoigner dans le plus strict anonymat. Ce n'est donc pas sa voix réelle que vous allez entendre.
On ne peut pas parler seulement d'omission de la part des autorités. Elles ont carrément encouragé la contagion en organisant ces rassemblements géants. Nous, on tente de recenser les cas suspects puisqu'on ne peut pas les vérifier. On rassemble les informations des hôpitaux et celles qu'on reçoit de la population, car beaucoup de malades restent chez eux.
L'OMS elle-même a dénoncé le fait que le Nicaragua refuse de lui transmettre ses chiffres de l'épidémie. Sous la pression, le gouvernement publie désormais de vagues bulletins. Le docteur Carlos Quint est infectiologue à Managua. Dans son hôpital, la réalité ne ressemble en rien à celle du gouvernement.
C'est une situation inédite dans le monde. Le gouvernement nie l'existence de l'épidémie. Il dissimule l'information. Il n'y a ni test, ni mesure de contention. Le virus poursuit son cours naturel avec une très haute létalité. Les hôpitaux sont saturés, tout le monde tombe malade. Pendant que le gouvernement parle d'une infime quantité de cas, on est face à deux réalités bien distinctes.
Début juin, le docteur Quint a été renvoyé de l'hôpital public où il travaillait depuis 25 ans, tout comme une vingtaine d'autres médecins.
Ces licenciements sont une punition pour ceux qui, comme moi, ont pris la parole pour dénoncer la situation et appeler le gouvernement à revoir sa gestion de la pandémie.
Dans ce pays en crise politique depuis plus de 2 ans maintenant, où plus de 300 personnes ont été assassinées pour avoir osé réclamer le départ du couple Ortega qui s'accroche au pouvoir, les autorités ont perçu le virus comme une menace, non pas pour la population, mais pour leur règne. Luis Carrión, ancienne figure de la révolution sandiniste, observe désormais les dérives du pouvoir.
Pour moi, c'est une décision politique criminelle. Ils se sont englués dans leur propre arrogance et ont perdu pied avec la réalité. Daniel Ortega est persuadé qu'il doit garder le pouvoir au Nicaragua pour assurer sa sécurité. C'est pour ça qu'il a politisé le virus et en a fait une arme pour approfondir les divisions au sein de la population. Par exemple, porter un masque suffit à faire de vous un putschiste. Ça ne l'a jamais dérangé de sacrifier son peuple sur l'autel de ses ambitions.
Pour Luis Carrión, la crise du coronavirus a provoqué ce que la crise politique n'avait pas atteint, le discrédit du couple Ortega dans son propre camp.
Il faut dire que le cercle des proches du président a été durement frappé par la pandémie. Il y a eu plusieurs morts alors qu'Ortega leur disait que le virus n'était pas dangereux. On note un certain malaise dans ses rangs au sujet de la gestion de la pandémie. Il a perdu le soutien de gens qui croyaient en lui.
Une élection présidentielle se tiendra en 2021 au Nicaragua. Un test qui dira si le cruel calcul du président Ortega face au Covid-19 finira par lui coûter son poste. Alex Hardy, Mexico, RFI.
RFI à Paris, 15h15, la revue de presse des Amériques. C'est avec vous, Harim Lipold. Bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et nous prenons tout de suite la direction de l'Amérique latine, où les cas de contamination ne cessent d'augmenter avec de nouveaux records quotidiens de contamination au Covid-19. Et c'est notamment le cas, Harim, du Venezuela, par exemple.
Oui, d'après la vice-présidente Delcy Rodriguez, le pays compte désormais plus de 12 000 personnes contaminées au cours des dernières 24 heures. Le Venezuela a recensé plus de 440 nouveaux cas, un record, c'est-à-dire dans El Nacional, un journal en ligne proche de l'opposition. Sur le site de la chaîne Télésur, Adrien, qui est sous la tutelle du gouvernement, bien les informations sur le Covid concernent surtout d'autres pays, comme par exemple les États-Unis ou la Colombie.
Le Venezuela, Harim, où nous restons et où la situation dans les hôpitaux devient vraiment critique.
Oui, exactement. C'est ce qu'on peut lire également dans El Nacional. D'après ce journal, le personnel hospitalier craint un effondrement du système de santé qui était déjà très précaire avant la crise du Covid-19. Au cours du dernier mois, les cas de contamination ont triplé, rappelle El Nacional. Et d'après une infirmière interviewée par le journal, eh bien, les autorités avaient désigné 46 hôpitaux pour l'accueil des patients Covid, mais il s'avère que c'était pas assez. Le problème, c'est aussi que l'infrastructure de soins a été mal pensée, mal réfléchie, selon cette infirmière. Le gouvernement chaviste n'a pas suffisamment mis en place de petites unités de soins de bonne qualité capables de soigner les gens près de chez eux, les personnes vivant dans les régions reculées n'ont finalement pas d'autre choix que de se rendre à l'hôpital le plus proche.
La situation est également très compliquée au Brésil. Le Brésil où désormais 1% de la population est contaminée par le coronavirus.
Oui, exactement. Le Covid-19 a jusqu'à présent tué plus de 80 000 personnes, les chiffres publiés par plusieurs médias, dont le journal Folha de São Paulo, des médias qui se sont, vous savez, regroupés pour vérifier eux-mêmes les statistiques de Covid-19. Comme le gouvernement ne communique partiellement les données sur les nouvelles contaminations, eh bien, ces médias ont décidé de demander eux-mêmes les chiffres auprès des agences de santé régionales. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est en train de se remettre du Covid-19, s'est présenté hier devant ses sympathisants avec un masque, faut-il souligner. Aucun mot sur les plus de 80 000 Brésiliens tués par la pandémie. En revanche, il a encore une fois qualifié la très controversée chloroquine de médicament efficace contre le coronavirus.
Et pendant ce temps-là, Harim Lipold, le confinement est assoupli en Argentine. Après déjà 4 mois d'isolement forcé, les habitants de Buenos Aires et sa grande banlieue, la zone la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, ont retrouvé quelques libertés depuis hier lundi, notamment la réouverture des commerces de proximité, l'autorisation de la course à pied. Dans la capitale, les habitants se réjouissent de cet assouplissement, mais veulent rester prudents, car l'épidémie est loin d'être terminée dans le pays. Reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Dans le quartier de Palermo, la vie reprend un peu son cours. Ce lundi, de nombreux commerçants rouvraient leurs boutiques, comme Carlos Francica. Il avait lancé son magasin de décoration depuis quelques mois à peine, lorsque l'épidémie de coronavirus a démarré.
Ça a vraiment été angoissant. C'est un projet pour lequel nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avions beaucoup d'envie. Nous avons dû nous recycler, nous réinventer pour nous adapter à cette situation qui nous est tombée dessus.
Carlos et son associé ont limité les pertes grâce aux ventes sur Internet. C'est aussi en ligne que Tatiana Lopez, 20 ans, a pu continuer ses études de stylisme. Elle se réjouit de l'assouplissement du confinement.
Je pense que c'est bien de rouvrir un peu, les gens ont besoin de sortir. Personnellement, je fais de la danse et j'adorerais pouvoir revenir m'entraîner, mais ce n'est pas le moment, il faut continuer de faire attention.
Faire attention car la courbe de nouveaux cas est en hausse en Argentine. Le docteur Javier Farina, infectiologue, appelle à la vigilance.
Les cas peuvent tout à fait continuer d'augmenter. Nous espérons que le système de santé ne sature pas. Il faut continuer à insister sur les mesures de prévention et informer sur les activités qui représentent le plus de risques de contagion.
Le maire de Buenos Aires a présenté un plan de déconfinement très progressif, en 6 phases. Les prochaines étapes prévoient notamment la réouverture des lieux de culte pour la prière individuelle et la possibilité de se réunir à moins de 10 personnes à l'air libre. Audevillier-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Des étapes qui ne seront franchies que si la situation sanitaire le permet, selon les autorités argentines. Hier, le jour de l'assouplissement de confinement en Argentine, a enregistré le chiffre record de 113 morts victimes du coronavirus en 24 heures. Autre titre de la presse argentine, Arim Lipod, la restructuration de la dette. Les créanciers du pays rejettent la dernière offre du gouvernement afin de restructurer la dette qui s'élève à 66 milliards de dollars.
Oui, ils ont présenté une contre-proposition qui a été retoquée par Buenos Aires. Et d'après le journal La Nación, qui s'est procuré une copie de l'offre des créanciers, celui-ci prévoit un assouplissement des conditions de restructuration. Malgré cette impasse, eh bien, le gouvernement argentin souhaite continuer les discussions avec les créanciers, écrit La Nación. Les discussions ont été lancées le 20 avril et déjà prolongées plusieurs fois, selon les experts. Un accord sur la restructuration serait important pour stabiliser l'économie, Adrien, dans un pays qui a affiche un taux de chômage de 15% et où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Et juste avant de refermer votre revue de presse, Arim, aux États-Unis, direction l'État de l'Oklahoma, où le taux de chômage est également en hausse, une conséquence de la crise du Covid-19.
Oui, environ 14% de la population active est sans emploi. Une station qui produit des scènes parfois dramatiques s'est alliée dans le Washington Post. Des centaines de personnes campent devant le centre d'aide à la recherche d'emploi de Tulsa. C'est la deuxième grande ville du pays. C'est le journal a rencontré par exemple John Jolly, un directeur d'une agence de publicité florissante avant la crise du coronavirus. Mais aujourd'hui, il dort dans sa voiture sur le parking devant l'agence à la recherche d'emploi. Il souhaite éviter de faire la queue pendant des heures. Un reportage à lire dans le Washington Post.
Arim Lipold, merci beaucoup pour cette revue de presse des Amériques. Les États-Unis qui ont pour le 7e jour consécutif enregistré plus de 60 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, le Covid-19, et a par ailleurs causé la mort de 444 personnes en une journée. La flambée des infections est particulièrement importante dans le sud et l'ouest du pays. Donald Trump qui défend désormais le port du masque face au coronavirus comme un geste, dit-il, patriotique, après avoir longtemps affiché une position plutôt ambiguë sur cette question sensible.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et nous sommes à présent en ligne de Port-au-Prince avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Adrien.
À la une de votre site d'information, les ONG qui demandent aux autorités haïtiennes de ne pas négliger les autres besoins urgents médicaux au moment de la crise du Covid.
Eh bien oui, le principal réseau d'ONG national et international en Haïti estime que la réponse à l'épidémie de Covid-19 ne doit pas reléguer au second plan les autres besoins urgents, humanitaires et sanitaires. Le CLIO, le cadre de liaison inter-organisation, signale des cas de décès communautaires, notamment de femmes enceintes, n'ayant pas pu trouver de structure sanitaire pour les accueillir. Une augmentation des cas de malnutrition dans leur zone d'intervention a été aussi rapportée par certaines ONG. Entre-temps, plus de 7000 cas d'infection au Covid-19, dont 146 décès, ont été confirmés à ce jour à travers le pays.
Autre sujet à la une d'Alter Press, c'est la crise énergétique qui provoque un sévère rationnement de l'électricité en Haïti. Godson, racontez-nous quelles sont les conséquences pour la population.
D'abord, certains quartiers de la capitale passent plus de 8 jours dans le blackout, ce qui affecte gravement les activités des ménages, mais surtout de nombreuses entreprises. Le pire est que ce sévère rationnement s'accompagne d'une pénurie de diesel, carburant utilisé pour faire fonctionner les génératrices, notamment en milieu commercial et industriel. Le rationnement s'est durci depuis 2 semaines suite à la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'électricité d'Haïti, nomination rejetée par le syndicat qui est entré en grève. Les employés craignent la mise en œuvre éventuelle d'un plan de privatisation de la compagnie d'État.
Et puis enfin, face à la crise politique et institutionnelle en Haïti, l'opposition présente une nouvelle initiative commune. Godson, en quoi consiste-t-elle et puis a-t-elle des chances d'aboutir ?
Bon, d'abord, ce sont des partis, regroupements, organisations de la société civile et personnalités de diverses tendances qui annoncent cette décision de travailler ensemble à mettre fin à ce qu'ils appellent la dérive politique et à ramener le pays sur la voie du fonctionnement régulier des institutions. Ces entités, dont l'Organisation du Peuple en Lutte et le secteur démocratique et populaire, prônent un accord entre le secteur politique et les autres secteurs de la vie nationale sur les modalités de remplacement du président Jovenel Moïse et de la réalisation d'une période de transition. Pour eux, le mandat de Jovenel Moïse prendrait fin en février 2021, ce qui est bien sûr contesté par le pouvoir et ses alliés. Lors d'une tournée dans le nord du pays au cours du week-end écoulé, le président Moïse a péremptoirement averti que quelle que soit l'élection réalisée en Haïti, son parti l'emporterait.
Godson Pierre, le rédacteur en chef de l'agence Alter Press à Port-au-Prince pour RFI. Bonne journée en Haïti, Godson.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec à présent Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Adrien.
Les revendications en matière de santé sont nombreuses en Guyane et depuis quelques temps, il est question d'un CHU.
Et oui, un centre hospitalier universitaire. Et pour obtenir ce CHU, il faut mettre tous les atouts de notre côté. C'est le président de la collectivité territoriale de Guyane qui le dit, Rodolphe Alexandre.
Nous avons rencontré le recteur qui est favorable, nous avons rencontré le président Primrose qui est favorable, et nous avons rencontré les doyens professeurs ici en Guyane pour la recherche, professeur Coupier, professeur Nacher. Donnons-nous la fin de mandat et donnons-nous un objectif, les contrats de plan qui vont être signés avec l'État. Ça, je pense que c'est là qu'il faudra se battre. On devra y mettre des crédits de la CTG, des crédits de l'Europe. Nous sommes d'accord déjà. Je pense que à la rentrée fin août ou mi-août, à l'Assemblée qui va se tenir, nous allons aborder cette question du CHU et certainement la question du CTPS également pour que nos compatriotes sachent que ce ne sera pas une Arlésienne.
Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, était au micro de Patrick Clark de Guyane la première. Le mois dernier, le déboulonnage des statues de Victor Schellcher à Fort-de-France en Martinique faisait la une de tous les journaux de l'île. Cette action a eu pour effet de pousser la commission mémoire et patrimoine de la ville de Fort-de-France à réfléchir sur l'histoire et l'identité du territoire. Elle a débuté ses travaux hier soir à la mairie de Fort-de-France. Emmanuel Larade de Martinique la première.
C'est un travail colossal qui attend la commission mémoire et patrimoine de la ville de Fort-de-France, la présidente Mélodie Moutama.
On va mettre en place un phasage de projet, puisque tout projet, il faut avoir du court, du moyen et du long terme. Et ça va passer au court terme avec la dénomination des rues et le déplacement de certaines statues problématiques ou non, peut-être avoir des plaques explicatives. Après, au moyen terme, ce serait mettre en place et créer des outils digitaux de sensibilisation à l'histoire de la Martinique et à long terme avoir justement ce lieu de mémoire sur l'histoire de la Martinique et que ces personnes puissent participer à l'écriture de cette histoire. C'est très important.
Changer le nom des rues qui fâchent, faire des propositions, les 32 membres du pain sur la planche, le maire de Fort-de-France Didier Laguerre n'exclut pas de consulter les Fouyalais.
D'abord à travers le débat, premièrement. Deuxièmement, à travers, si c'est nécessaire, une consultation des Fouyalaises et des Fouyalais sur telle ou telle proposition qui est controversée. Et puis ensuite par une décision du conseil municipal. Il y a un gros travail qui a été fait sur cet espace public fouyalais. Je le rappelle, hein, de la statue de Coco René Corail, place du 22 mai, au banc Tony Morrison installé dans les jardins de l'hôtel de ville, sur les dénominations de voies. Mais il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Il y a des éléments d'histoire qui remontent. Il y a des choses qu'on acceptait il y a 60 ans et qu'on n'accepte plus forcément aujourd'hui et sur lesquelles donc il faut continuer à travailler.
D'autres communes comme Trinité ont entamé la même démarche. 2020 semble vouloir marquer une nouvelle ère dans l'histoire de notre belle Martinique.
Emmanuel Larade de Martinique, la première. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
RFI à Fort-de-France où il va être bientôt 9h30. Merci Alex Léveillé. C'est la fin de ce journal des Amériques sur RFI. Mise en onde Hélène Avril, rédaction en chef Véronique Guémard.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.